Bonjour Marcel Dugas.
Bonjour.
Ça va bien ce matin?
Très bien, vous-même.
Oui, alors vous nous conviez à un voyage avec le docteur Kellogg?
Ouais, qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner ce matin, monsieur?
Ben, c'est la question que je voulais vous
Monsieur
poser. Je
Dugas?
ne sais pas quelles sont vos habitudes alimentaires au déjeuner, mais si vous aimez commencer votre journée avec un bol de cornflakes de Kellogg, vous dégustez une invention culinaire qu'on doit en partie à un des personnages les plus singuliers de l'histoire récente de la médecine, qui s'appelait John Harvey Kellogg, médecin, chirurgien prolifique qui a procédé à des dizaines de milliers d'opérations et pratiquait encore alors qu'il avait 88 ans. C'est un apôtre de la santé et de la médecine préventive longtemps avant que ce ne soit à la mode. Mais pour chaque bonne idée qu'il a eue dans la pratique de son métier, il en a eu cinq ou six qui oscillaient entre mal inspirés et franchement répréhensibles.
Oui, c'est ça, j'allais vous parler d'emblée. Moi, je les avale un peu de travers, là, les céréales, depuis que j'ai lu votre résumé hier, Marcel, et quand j'ai vu qu'il était partisan de l'eugénisme.
Il a eu un impact limité. Si vraiment, là, à ce moment-là, vous décidez de. Vous n'avez pas. Vous faites ce que vous voulez, remarquez bien, mais vous n'avez pas nécessairement besoin de boycotter les cornflakes. Son rôle dans leur invention a pas été énorme, mais je vais y revenir là-dessus dans quelques instants. Le docteur Kellogg est né dans le Michigan en 1852 dans une famille appartenant à la communauté religieuse des Adventistes du septième jour. Il fréquente brièvement l'école, il va s'instruire lui-même. C'est finalement le patronage d'autres membres de la communauté qui va lui permettre d'étudier la médecine. En 1876, il prend la direction d'un établissement fondé 10 ans plus tôt par les Adventistes du septième jour, nommé la Western Health Reform Institute, que Kellogg renomme le Battle Creek Sanitarium. Battle Creek, c'est le nom de la ville du Michigan où le complexe était situé. Et sanitarium, à ne pas confondre avec sanatorium, terme qu'on a utilisé chez nous pour parler des centres de convalescence où on envoyait les personnes atteintes de tuberculose. Sanitarium, c'est un mot que Kellogg dit avoir inventé, c'est comme dans sanitaire. Et son institut, c'était tout à la fois un hôpital, un institut de recherche, un centre de formation médicale et une retraite pour les riches et les puissants. On allait là pour guérir d'une maladie quelconque ou encore pour retrouver la santé, par exemple dans des cas d'épuisement professionnel, grâce à l'approche du biologic living, vivre une vie biologique du docteur Kellogg. C'est un gourou de la bonne forme physique à une époque où ça ne faisait pas partie du discours ambiant. L'air pur, le soleil, l'exercice, il encourageait la pratique du sport chez ses patients et patientes. La consommation d'alcool et de tabac était strictement interdite au sanitarium. Et à une époque où presque tous les hommes et beaucoup de femmes fumaient, il a lutté énergiquement contre le tabac, disant qu'il n'y avait aucun côté positif à la consommation d'une des plantes les plus meurtrières que l'on connaisse. Il croyait aussi aux bienfaits de la luminothérapie, de l'hydrothérapie, mais son approche scientifique à plusieurs points de vue était teintée par ses convictions religieuses. Il faisait preuve du plus pur puritanisme quand il était question de sexualité. Il considérait ça comme étant excessivement dommageable. Il a écrit un livre intitulé « Plain Facts About Sexual Life », publié tout d'abord en 1877, donc des faits simples à propos de la vie sexuelle, où essentiellement il essaie de décourager les gens de s'y adonner. L'édition originale comptait 356 pages. Il va y ajouter tout au long de sa vie. Au moment de son décès, la dernière édition, on était rendu à 900 pages de faits sur la vie sexuelle. C'est un des nombreux traités qu'il a publiés pendant sa vie. La sexualité, c'était mauvais à un point tel que lui-même a été marié pendant plus de 40 ans et on ne pense pas que le mariage a été consommé. On n'en est pas entièrement certain, mais on sait que sa femme et lui dormaient dans des chambres séparées et qu'ils ont passé une bonne partie de leur voyage de noces à écrire sur les méfaits de la sexualité, donc à ajouter au livre dont je vous parlais il y a un instant.
Je m'excuse, Marcel, est-ce qu'il avait une certaine notoriété, ces propos-là, est-ce qu'ils étaient repris par d'autres ou c'était assez original, je vous dirais?
Bien, ça dépend à propos de quoi. Il y a certaines de ces théories qui ont eu une grande circulation. Bon, ses livres, en général, je pense qu'il en a écrit quelque chose comme 50. Plusieurs d'entre eux se sont très bien vendus. Et son institut, son sanitarium est devenu excessivement populaire. À un certain moment donné, il pouvait soigner jusqu'à 1300 patients en même temps. Et c'était vraiment les gens riches et célèbres des États-Unis allaient là pour suivre ses conseils, pour se fier sur sa vie biologique. Donc, certaines de ses idées ont beaucoup circulé. Il a connu une grande popularité personnelle. Il a fait de très bonnes affaires avec son sanitarium. Mais, bon, c'est comme n'importe quoi. Il y a des choses qui étaient, qui avaient plus de circulation que d'autres, si vous voulez. Notamment, son idée à propos, parce que pour lui, la masturbation, c'était à peu près la pire chose qui soit. Il disait que il allait jusqu'à recommander, en fait, la circoncision à froid pour les garçons et l'application d'acide ou l'excision du clitoris chez les filles qui s'adonnaient à ce vice-là. C'est pas une idée, celle-là, qui a eu beaucoup de résonance dans la société, fort heureusement. Mais le nerf de la guerre, de la santé, selon l'avis biologique de John Harvey Kellogg, c'est l'alimentation. Il trouvait que les Américains mangeaient mal, mangeaient trop et avaient une diète trop stimulante. On va prendre ça une chose à la fois. Il n'y avait aucune viande servie au sanitarium, il était végétarien depuis l'adolescence et il prônait une alimentation saine à base de fruits, de légumes, de céréales et de noix. Il y avait un laboratoire alimentaire à son établissement où il développait des recettes, parfois avec son épouse Ella, parfois avec Will, un de ses frères. Les Kellogg ont créé des substituts de viande faits de noix, des beurres de noix qui venaient remplacer le vrai beurre et bien sûr, ils ont inventé les céréales en flocons. L'origine exacte de la recette des flocons de maïs de la compagnie Kellogg est incertaine. C'est difficile de savoir qui de John, Will et Ella Kellogg a fait quoi. Mais John Kellogg obtient un brevet pour ses céréales en 1896. Et dès le départ, le produit qu'on appelait granose se vendait plus vite qu'on réussissait à le produire. Il y avait véritablement, et là je m'excuse du jeu de mots, un appétit dans la population pour des options faciles, rapides et nourrissantes au déjeuner. Mais Will Kellogg, donc le frère du premier qui était un peu le laquais du docteur dans son sanitarium, avait la fibre entrepreneuriale plus que son frère qui se voyait vraiment comme un scientifique. Il se disait que si on améliorait le goût du granose, ça pourrait se vendre encore mieux. Sa suggestion d'ajouter du sucre à la recette a été rejetée du revers de la main par John Kellogg parce que la nourriture qu'il servait et qu'il recommandait à ses patients, patientes de continuer à prendre après leur départ de l'institution, ça devait être plate. Les aliments ne devaient pas vous stimuler, vous ne deviez pas avoir de plaisir à manger. C'est une des raisons pour lesquelles il avait l'alcool et la caféine en horreur. N'importe quel aliment stimulant, ça pouvait vous mener sur la voie du sexe, et ça, c'était très mal. Donc, Will Kellogg, en 1906, lance, contre l'avis de son frère, la Battle Creek Toasted Corn Flakes Company, ancêtre de la compagnie Kellogg d'aujourd'hui, pour vendre sa recette modifiée de flocons de maïs qu'il avait co-inventée. Il y a eu une longue bataille légale entre les deux. Les tribunaux ont donné gain de cause à Will et les frères sont demeurés en mauvais termes jusqu'au décès de John. Je reviens au sanitarium. J'en parlais tout à l'heure. Les méthodes du docteur Kellogg fonctionnaient, à tout le moins au niveau commercial, si pas au niveau scientifique, ça c'est un petit peu moins certain. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le docteur Kellogg a beaucoup, beaucoup travaillé. D'ailleurs, ça m'étonne que j'aie pu vous en parler pendant presque 8 minutes à la radio sans vous parler de l'obsession qu'il avait pour les intestins. Selon lui, la flore intestinale, tout passait par là. Une mauvaise alimentation déréglait les intestins et c'était la cause de tous les maux. Et il prescrivait beaucoup, beaucoup de lavements intestinaux. Il a même mis au point un appareil qui permettait de pomper jusqu'à 15 litres d'eau par minute dans les intestins d'un patient. C'était du lavage à haute pression, comme on dit. Et, bon, vous l'avez mentionné au tout début, le docteur Kellogg ne faisait pas que rester à l'intérieur des quatre murs de son institut. Il a beaucoup travaillé à la promotion de l'eugénisme, donc cette idée qu'on pouvait améliorer une race, entre guillemets la race blanche dans ce cas-ci, en limitant qui pouvait avoir des enfants, qui ne pouvait en avoir. Il était, inutile de vous le dire, contre les mariages mixtes, pour la ségrégation raciale. Il a fondé et consacré une bonne partie de sa fortune à une organisation qui s'appelait le Race Betterment Foundation, donc la Fondation pour l'amélioration de la race qui, comme son nom l'indique, œuvrait dans ce qu'on appelait, c'est un terme que je n'avais jamais vu avant, l'hygiène raciale. C'est quand même assez formidable qu'on ait pu penser à des choses comme ça. Donc, Francine, personnage très, très complexe, qui avait énormément d'énergie, peut-être un peu trop.
En tout cas, il était parfois contradictoire, c'est le moins qu'on puisse dire, mais disons que c'est pas mon ami
non, on
premier.
On l'inviterait pas à une fête. Hein?
Non. En terminant, je suis obligée de vous parler de ça. Le film Chevalier est sorti, je ne sais pas si vous avez vu Marcel, qui fait référence à Joseph Boulogne de Saint-Georges, dont vous nous avez parlé amplement.
Tout à fait. J'ai pas vu le film et je crains le pire. Je pense que j'avais mentionné dans la chronique.
Vous avez peut-être pas tort parce que j'allais vous dire que heureusement que vous nous en avez parlé. Nous n'avons pas vu le film ici, mais nous avons lu la critique du Devoir et on comprend qu'ils en ont fait une espèce de Bridgerton et donc c'est principalement question de vie amoureuse.
Oui, bien, de toute façon, l'expression dans les films basés sur des faits vécus, souvent Hollywood a tendance à étirer le concept de basé sur des faits vécus à son extrême limite. Et finalement, il ne reste plus grand-chose des faits véritablement vécus à la toute fin. C'est un divertissement. Il faut prendre ça pour ce que c'est.
Voilà. Alors, à la semaine prochaine, Marcel. Merci.
À la semaine prochaine.